Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle émission de Parole à propos. En fait, c'est la première enregistrée en 2013, donc nous sommes en train de refaire le plein de nouvelles émissions. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le pasteur Pascal Deneau de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Et bonjour Pascal.
Bonjour pasteur Pelletier, je vous souhaite une excellente année 2013.
De même. D'ailleurs, vous me rappelez que j'ai besoin de me présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Mon nom est Jacques Pelletier et je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de la capitale. Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet extrêmement délicat. C'est la question, le sujet de la tuerie qui a eu lieu dernièrement dans la ville de Newtown aux États-Unis, dans l'État du Connecticut, où 27 personnes ont été tuées par un tireur fou, dont 20 enfants en bas âge. Et nous ne désirons d'aucune manière nous servir de cet événement-là comme une espèce d'instrument là pour propager nos propres idées personnelles. On ne veut pas se servir de cet événement-là de façon gratuite, quoi que ce soit. En même temps que je pense que vous êtes d'accord avec moi, Pascal, que c'est quelque chose qui frappe, je pense, à peu près tout le monde en plein fouet et qui suscite énormément de questions.
Ça a été véritable choc, effectivement. Ça a secoué des gens dans nos émotions. On se met à la place là, des familles le jour du drame, lorsqu'on a appris la nouvelle. Et on peut imaginer comment la communauté de Newtown a été ébranlée. Et on a beaucoup de compassion de toutes ces familles, de ces enfants qui ont péri, ceux qui ont survécu mais qui vont devoir vivre avec des séquelles pour le reste de leur vie.
Effectivement. Et donc, notre but, c'est bien sûr d'essayer de regarder, d'analyser ces événements-là un tant soit peu à la lumière, je veux dire, non seulement de la parole de Dieu, mais de l'Évangile, hein, parce que le cœur de la Bible, c'est l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et peut-être dans un premier temps, Pascal, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, selon vous et selon les Écritures, qu'est-ce qui rend cet événement si tragique? Bien sûr, les gens vont répondre spontanément, mais écoutez, on a tué des petits-enfants. Hein, en bas âge, mais peut-être essayer d'expliquer un peu plus, d'approfondir un peu plus, selon vous, Pascal, qu'est-ce qui rend cet événement tellement tragique?
J'aimerais premièrement lire un verset de la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, qu'on trouve au chapitre 31, le verset 15, qui nous parle d'une tragédie similaire. Alors le texte va comme suit, « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. » C'est un texte que l'évangéliste Matthieu va appliquer lors d'une tragédie à l'époque de la naissance du Christ. On se souvient que le roi Hérode, lorsqu'il apprend qu'un autre roi est né, veut sa mort, veut pas qu'il puisse régner à sa place et va faire assassiner tous les enfants de 2 ans et moins dans la ville de Bethléem. Et donc Matthieu cite ce texte en disant c'est comme une prophétie qui s'est accomplie. Des enfants qui meurent, qui sont tués froidement, qui sont assassinés dans toutes les époques, de toutes les cultures, c'est une tragédie qu'on ne peut pas s'expliquer humainement. Et ce qui en fait à nos yeux, pour nous chrétiens, quelque chose de tragique, qu'est-ce qui fait que la mort est tragique et que le meurtre est tragique, c'est la valeur de la vie humaine. Pourquoi est-ce que l'homme a une valeur intrinsèque? C'est parce que nous croyons qu'il est à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi nous croyons que la mort est tragique, parce que l'être humain n'est pas qu'un animal, il n'est pas que le produit d'une évolution aléatoire, il est une créature qui est voulue par Dieu, qui est aimée de Dieu et qui porte l'image de son Créateur. Et c'est ce qui fait que l'homme a une valeur. Lorsqu'on regarde nos enfants, on se voit en eux et ils sont précieux à nos yeux, hein, parce que ce sont nos enfants. Eh bien, ce qui fait qu'ultimement l'être humain est précieux, eh bien, c'est parce qu'il vient de Dieu. On a toutes les raisons autrement dit, la tristesse qu'on ressent, le sentiment de bouleversement que cet événement est véritablement tragique, il est fondé, il est justifié parce que véritablement, ces enfants ont une valeur absolue parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Et je ne sais pas comment, on peut justifier ce sentiment qu'il y a une tragédie, lorsqu'on enlève cette valeur intrinsèque à l'être humain qu'il est l'image de Dieu.
Du moins, on perd, je dirais peut-être justement un sens réel de la valeur profonde que possède l'être humain en soi, hein, et devant la face de Dieu, bien sûr. Est-ce qu'on peut ajouter, Pascal, aussi, bien sûr, que pour les gens qui nous écoutent, que ce qui rend cette tragédie d'autant plus tragique, enfin, cet événement d'autant plus tragique, c'est le fait que le tireur se soit attaqué à des petits-enfants. Et vous, qui êtes père de 3 enfants, je pense que vous avez certainement dû vous-même ressentir énormément d'émotions lorsque vous avez entendu la nouvelle. Parce qu'on parle ici, on y va du point de vue humain, bien sûr, d'être innocent, hein, sans défense. Et je pense que tout le monde reconnaît que c'est la responsabilité des adultes et d'adultes normaux que de prendre soin de défendre les petits-enfants.
Tout à fait, hein, les enfants sont vulnérables et ils viennent au monde totalement vulnérables, totalement dépendants. Hein, je dis souvent que Dieu a institué la vie, a fait en sorte que la vie se transmet d'une manière à nous forcer à apprendre à aimer. Hein. On est un petit peu par nature égoïste, même pas juste un petit peu, beaucoup. Et lorsqu'on a des enfants, bien, ils dépendent totalement de nous. Ils peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes et Dieu nous force en quelque sorte de renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre confort pour se donner à eux, pour en prendre soin parce qu'ils sont vulnérables. Et ils sont vulnérables pas seulement à la naissance, mais jusqu'à un certain temps dans leur vie, jusqu'au moment où ils sont capables de veiller sur eux-mêmes, de vivre, de pourvoir leurs propres besoins. Et donc, de s'attaquer à des enfants qui sont vraiment sans défense, ça augmente notre sentiment de tragédie lorsqu'on regarde une tuerie. Et c'est ce qui en a fait une tragédie une tuerie un peu particulière. C'est pas la première aux États-Unis. Ça arrive fréquemment, fréquemment. Ça arrive à répétition, en tout cas, dans les dernières années. Mais c'était la première fois où c'était des enfants aussi jeunes qui étaient impliqués, et ça augmente notre sentiment vraiment d'une injustice, d'une horreur qu'on ne peut pas s'expliquer, et bien qu'il faut essayer de raisonner et d'expliquer quelque chose. Il y a un tireur qui est là. Et moi, une chose qui m'a beaucoup agacé, et qui m'agace régulièrement lorsqu'on analyse, on entend dans les médias les analyses des événements de ce genre-là, que ce soit des tueries de masse ou simplement des drames familiaux, c'est comment on est prompt à pratiquement excuser les auteurs de ces drames en recourant à une forme de non-responsabilité criminelle parce que les gens avaient un problème mental. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, il me semble que ça devient récurrent dans les événements, dans les, comment on dit, les faits divers qu'on entend.
Ben effectivement, on l'a vécu au Québec, n'est-ce pas, avec ce docteur qui a tué ses 2 enfants, qui les a poignardés, hein, et qui lui-même réclame la libération, sa libération, ce qui, personnellement, je vais vous dire ouvertement, je suis absolument contre cela. Mais effectivement, il y a comment dirais-je, une espèce de culture là, de déresponsabilisation qui s'est répandue, qui est omniprésente, et c'est certainement un point important ici, à savoir quelle est la responsabilité de cet individu. Individu,
Mais
justement, dans ces événements.
j'allais dire, comment vous conciliez, parce que bon, on reconnaît qu'il y a une réalité de la maladie mentale, mais est-ce que la maladie mentale, selon vous, vient en quelque sorte abolir la responsabilité humaine? Et lorsqu'on commet des actes criminels, peut-on en être excusé au nom de la maladie mentale?
Ben, je pense que, écoutez, il y a peut-être, il y a quelques cas, je pense, où la personne a réellement perdu, on va dire, pour bien se faire comprendre, a perdu la carte complètement, là. Mais même là, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui a conduit la personne à un tel état? Mais je pense pas que c'est ce dont on est en train de parler de toute façon. Et c'est justement, c'est devenu un petit peu le passe-partout, hein, de dans toutes les situations de mettre la culpabilité ou la faute sur la soi-disante maladie mentale. Et c'est, je pense que c'est là une erreur extrêmement grave.
Oui, parce que c'est le cœur du problème, c'est le cœur.
Effectivement, ok. En parlant de cœur, j'aimerais peut-être juste revenir à un point, Pascal, sur un point, à savoir que, vous savez, ce qui touche, je pense encore une fois, ce qui touche énormément les gens, et de manière particulière les papas et les mamans, c'est justement parce que Dieu a mis dans le cœur des pères et des mères un amour très, très particulier pour leurs enfants. Mmh. En fait, je pense que c'est quelque chose que Dieu a placé dans le cœur de tous les êtres humains, parce que même des célibataires ou même des hommes et des femmes mariés qui n'ont pas eu d'enfants peuvent développer. Nous avons été appelés pour devenir des parents, même si c'est pas toujours de façon biologique, là. Nous avons été appelés à cela, hein. Et ben, c'est certain que les gens qui sont parents ont développé de manière tout particulière un amour très, très grand. Et toucher donc à leur progéniture, c'est toucher à eux-mêmes. Il y a quelque chose d'extrêmement déchirant là-dedans. Mmh. Vous êtes d'accord avec moi, Pascal?
Totalement d'accord avec vous. Nos enfants sont un peu notre propre chair. C'est notre prolongement. Et en effet, c'est un peu en s'aimant soi-même qu'on les aime d'une certaine façon.
Je pense que tous les parents à Newton, je pense, auraient préféré eux-mêmes tomber sous les balles que de voir leurs enfants être ainsi tués. D'accord avec moi, Pascal?
Ah, tout à fait. Je pense que de vivre avec ce genre de deuil-là, d'imaginer la peur de leurs propres enfants quelques instants avant de mourir, d'imaginer la souffrance qu'ils ont pu ressentir, est quelque chose de plus atroce avec lequel ils doivent vivre que d'imaginer de sacrifier notre propre vie. L'amour, selon ce que nous dit le Seigneur lui-même, consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime.
Effectivement, je pense que pour plusieurs de ces gens-là, la vie s'est arrêtée. Bien sûr, ceux qui ont d'autres enfants vont se consacrer, vont essayer de se donner une raison de vivre, là, justement, en disant, ben, il faut s'occuper des autres. Peut-être que certains en auront d'autres, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est mort en eux, là. Il y a des gens qui, probablement, ne se relèveront jamais de cela. C'est une cicatrice extrêmement profonde, hein, dont certains en fait, dans un sens, personne ne se relèvera de cela, mais certains auront plus de difficultés que d'autres, même d'être fonctionnels.
Mm-hmm. Ouais, ben, c'est ça. Je pense que, on guérit jamais, ça redevient jamais comme avant. Il faut apprendre à vivre avec ce deuil. Il y aura toujours une douleur, il y aura toujours des événements à l'approche des fêtes, ils vont repenser à cette date fatidique, à ce deuil. Il y aura toujours quelque chose pour leur rappeler et il faut d'une certaine façon être prêt dans cette vie, dans ce monde, à accepter qu'il va y avoir des tragédies et que on ne peut pas les éviter absolument. On dirait parfois dans la réponse que les gens ont lorsqu'on entend des tragédies, que ce soit je prends l'exemple des noyades au Québec, ça arrive souvent, il y en a eu beaucoup l'été dernier, et on veut passer des lois, on veut prendre des mesures pour empêcher, en pensant qu'on pourrait empêcher qu'il arrive des tragédies. Mais nous vivons dans un monde où il y a des tragédies et on ne peut pas les empêcher. Et il faut falloir vivre avec, malheureusement.
Effectivement, vous touchez à un point très, très intéressant. On va y revenir un petit peu plus tard, mais effectivement, en fait, je pense quand même qu'il y a une certaine responsabilité humaine qu'on doit mettre en application, mais effectivement, malgré tout le bon vouloir, c'est impossible parce que, bon, l'Écriture nous dit que nous vivons dans un monde déchu. Mais j'aimerais peut-être revenir, Pascal, sur la question, parce que, et là, vous l'avez abordé un petit peu, mais parce que les gens se posent, bien sûr, la grande question, pourquoi ces choses? Et On peut peut-être, à la limite, accepter la question des adultes. Puis encore, ça dépend comment est-ce que les adultes meurent ou même sont traités. Mais lorsqu'on arrive aux enfants, on touche vraiment quelque chose d'extrêmement sensible. Et la question est, où est Dieu là-dedans et tout cela? Et j'aimerais peut-être juste souligner, et je vous invite à continuer, Pascal, sur le fait que c'est Dieu lui-même qui a placé dans le cœur des gens l'amour paternel et l'amour maternel. Et aussi puissant qu'il est, cet amour-là, il n'est pas aussi grand que l'amour que Dieu a, lui, pour les êtres humains, et d'une manière particulière pour les enfants. Dieu lui-même a été révélé d'une manière particulière dans le Nouveau Testament comme étant père. Hein? Et donc, la paternité humaine elle-même n'est qu'une étincelle, je dirais, toute une étincelle puissante, hein, mais en comparaison de l'amour paternel de Dieu, ce n'est qu'une faible étincelle. Et donc, peut-être parce que d'emblée, souligner ce fait-là, que Dieu n'est pas, comment dirais-je, déconnecté de la situation, que Dieu, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais Dieu a énormément de compassion dans les événements qui se passent. Dieu n'est pas là, se tenant de façon stoïque en disant « bon, voilà, c'est arrivé, c'est tout ».
En effet, le Dieu que la Bible nous présente est un Dieu de compassion, un Dieu qui est intéressé à ce qui se passe ici-bas, non seulement intéressé comme s'il il y assistait de loin, mais il est impliqué dans l'histoire humaine par sa providence. Il s'est incarné, c'est le Dieu qui est venu dans l'histoire. Et donc, on peut dire sans risquer de se tromper que cette tragédie ne plaît point à Dieu. Dieu ne prend point plaisir dans la mort de ses enfants. Dieu désapprouve absolument le meurtre. Et d'une certaine façon, Dieu pleure avec toutes ces familles qui sont éprouvées. Y a aucun doute à cela. Lorsqu'on lit le livre de Job, et on voit donc ce personnage Job qui va être vraiment profondément éprouvé dans tout son être, en commençant par la perte de ses possessions matérielles. Suivi de la mort de ses propres enfants et jusqu'à sa santé qui va décliner totalement. Il lui reste plus rien. Il passe d'un homme là qui était entouré, qui était bien nanti, qui avait une famille et à être dans la misère, dans la cendre totalement. Et tout le long du livre de Job, bien, Job se questionne, cherche Dieu, il comprend pas. Et ce que ce livre nous révèle, entre autres choses, c'est que Dieu a compassion de Job, que Dieu n'est pas désintéressé, et en même temps, Dieu ne lui révèle pas spécifiquement le pourquoi de tout ça, mais la réponse ou la consolation que Dieu donne à Job, c'est lui-même. C'est de se révéler et c'est de faire comprendre à Job qu'il y a des mystères dans l'existence. Entre autres, un des mystères, c'est comment est-ce que Dieu peut regarder tout ce qui lui arrive et le laisser arriver, mais la consolation qu'il lui donne, ben c'est lui, c'est Dieu la consolation. Et je ne sais pas comment, Pasteur Pelletier, avec toute la sagesse que Dieu vous a donnée, vous appliquez cette réalité, de cette vérité biblique à cette tragédie à Newtown.
C'est une question que vous venez me poser, là.
Oui, tout à fait. Excusez-moi, la formulation était...
Écoutez, effectivement, je pense que Dieu n'est pas absent de la situation. La question est, comment est-il présent, effectivement? Et Dieu ne regarde pas tout cela de loin, de façon stoïque. Je pense effectivement que Dieu pleure avec les gens, parce que Dieu n'est pas l'auteur du meurtre. Okay? Dieu n'est pas l'auteur du mal moral. Et Dieu s'est révélé comme un père qui lui-même a donné son fils, hein, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc, c'est un Dieu qui comprend qu'est-ce que c'est que d'être père, que d'être mère. Et qu'est-ce que c'est aussi même que de perdre. Hein? Et donc, effectivement, et là, on entre un peu plus dans le mystère, justement, parce qu'il n'en demeure pas moins que Dieu est souverain. Et la question qui peut être posée, c'est, il aurait pu empêcher les choses s'il est tout-puissant. Hein? C'est une des questions, un des arguments que soulève souvent les athées, en disant, ben, si Dieu existe et qu'il est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas les tragédies et le mal? Mais comme vous l'avez dit, on en a quelque chose, la question de la providence de Dieu qui est extrêmement mystérieuse. Mais peut-être l'autre point sur lequel il faudrait un peu plus s'attarder en terminant cette émission, c'est justement le fait que il y a une responsabilité à quelque part, et on va parler maintenant du tireur.
Oui.
Dans la responsabilité du tireur, on vous avait déjà touché le sujet. Donc, si on comprend bien ce que vous nous avez dit, Pascal, vous considérez que le tireur possède une responsabilité personnelle.
Ben, moi, je vais vous parler de ma propre expérience. J'ai travaillé comme aumônier de prison dans les prisons fédérales. J'étais dans le plus haut niveau de sécurité, au super maximum, qui est à Sainte-Anne-des-Plaines, ce qu'on appelle l'USD, l'unité spéciale de détention. Et donc, j'ai rencontré les gens qui vivent là. J'étais 4 ans aumônier à cet endroit. Et j'ai rencontré des tueurs en série, des gens qui ont commis des meurtres et des choses, des viols, des actes de la pire horreur qu'on peut imaginer, et parfois l'on fait même sans scrupule. Et une chose qu'on se rend compte rapidement quand on travaille avec cette clientèle-là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes de santé mentale. Et moi, mon diagnostic, c'est que qu'on a un problème de santé mentale, ça n'empêche pas la responsabilité humaine. Ma compréhension des choses, c'est que l'être humain est une créature qui est déchue, c'est-à-dire que l'homme n'est pas dans sa condition telle qu'il a été voulu au commencement par le Créateur. Il y a eu la chute qui est intervenue et le péché donc est entré dans le monde, et le péché produit des effets sur les facultés mentales de l'homme, entre autres. Il produit des effets en fait sur toutes les dimensions de l'être humain, sa volonté son intelligence. Et le fait donc que l'homme ait des capacités mentales diminuées en raison du péché, de la chute, ne vient d'aucune façon enlever sa responsabilité devant Dieu. Il y a un degré de responsabilité que Dieu connaît parfaitement. Dieu sait à quel point une personne est coupable et responsable dans un degré absolument parfait. Oui, il peut y avoir, si on veut, un facteur atténuant, même aux yeux de Dieu, de la santé mentale, causé par la santé mentale. Quelqu'un pourrait être, si on veut, moins coupable ou responsable dans une moins grande proportion qu'une autre personne qui aurait commis un même acte, toute sa tête. Mais moi, je refuse l'équation qui est faite, que dès qu'on a des problèmes de santé mentale, on n'est pas responsable pour ce qu'on fait. La méchanceté est dans le cœur de l'homme, de tout être humain. Elle se manifeste à différents degrés, mais on est responsable pour les actes que nous commettons. Et je pense que le tireur de Newtown, malgré tout ce qui sera dit en quelque sorte justifier l'acte ou l'excuser pratiquement au nom d'une maladie pour déresponsabiliser, moi je n'avale pas du tout ça.
Alors Pascal venait de nous dire des choses vraiment intéressantes ici. Premièrement, vous faites une différenciation, et je suis tout à fait d'accord avec cela, entre Dieu et le tireur. Dieu n'est pas l'auteur du péché, de l'injustice, d'aucun crime. Le tireur agit de son propre fond. On est d'accord avec cela?
Tout à fait d'accord.
Il est responsable. Hein, l'Écriture nous dit, c'est Jacques dans son épître, nous dit que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne à faire le péché, et lui-même n'est tenté par quoi que ce soit. Okay? Et donc, c'est vraiment de notre propre fond que nous péchons. Et là, nous abordons un sujet extrêmement important. En fait, on va l'aborder dans notre prochaine émission, à savoir justement, on est en train ici de trouver une certaine explication à la présence du mal dans notre monde, ok, et même si ça ne peut pas tout expliquer justement, mais on est en train de toucher à une vérité vraiment vraiment importante qui nous permet d'éclairer un peu notre situation présente. Peut-être qu'on pourrait terminer, Pascal, en soulignant à nouveau le fait que Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très important que Dieu n'est pas absent des situations, de toutes les situations que nous pouvons expérimenter. Il y a peut-être même des gens qui sont à l'écoute en ce moment et qui ont vécu qui ont perdu des êtres chers, qui ont vécu de grandes injustices, peut-être qui ont perdu des enfants, dont les enfants sont malades ou quoi que ce soit, et bien sûr dont le cœur est blessé, peut-être meurtri, au point peut-être que certains ne sont jamais relevés de cela. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là concernant le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, Pascal?
Et c'est vrai pour ceux qui, en quelque sorte, sont les victimes, mais la réponse ou la consolation pour ces gens-là est la même que pour ceux qui sont les coupables, les criminels. Il y a une consolation. Dieu a véritablement une réponse et une bonne nouvelle à donner aux êtres humains, à ceux qui souffrent, aux familles de Newtown, à tous ceux qui ont assisté à cette tragédie. Et Dieu a aussi une bonne nouvelle à dire aux auteurs d'actes crapuleux, mais également à nous tous qui, dans un degré différent, portons en nous ce même germe de méchanceté, de mal, de meurtre qui est dans le cœur de l'homme. Et la consolation, c'est pas celle qu'on entend un peu partout, là, qu'on voit arriver par le contrôle des armes à feu ou je ne sais quoi, des programmes du gouvernement à protéger mieux. Peut-être qu'on fera quelque chose là sur ce plan-là, mais la réponse de Dieu, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. La consolation, c'est que, écoutez, il y aura des tragédies, la mort existe et nous allons tous mourir de différentes façons, mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Dieu a aimé le monde, il a regardé le monde, il a regardé la misère humaine et il a eu compassion du monde. Il a aimé le monde et ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné son Fils pour que son Fils vienne donner sa vie. La mort du Fils de Dieu n'était pas un accident, elle était voulue par Dieu. Il s'est sacrifié afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. En fait, tout ce qu'on voit, toutes ces tragédies sont le fruit du péché, sont les conséquences de la chute. Et Dieu s'est attaqué directement à la cause du péché. Il s'est attaqué au péché lui-même. Et il a puni le péché, mais non pas sur des pécheurs, il le punit sur son propre fils qui était sans péché. Et c'est une consolation parce que dans cet évangile, nous avons la réconciliation avec Dieu. Nous avons Dieu lui-même. Nous avons dit tantôt que la réponse que Dieu a donnée à Job, c'est de se donner lui-même, c'est de se révéler à lui. Bien, comment est-ce que Dieu est présent? Comment est-ce que Dieu se donne? Il s'est donné au travers de son propre Fils. Et il s'est réconcilié avec nous et il nous offre au travers de lui la vie éternelle. Il nous offre au travers de lui les bénédictions spirituelles, c'est-à-dire son Saint-Esprit qui peut, dans notre cœur, nous donner la paix, la joie divine. Et devant ce cadeau, le cœur de l'homme est totalement comblé. Augustin disait que le cœur de l'homme est agité, il n'est pas en paix jusqu'à ce qu'il se repose en Dieu. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'était lorsqu'il se repose dans cet évangile, lorsqu'il se repose dans cette communion avec Dieu au travers de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Pasteur Pelletier?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en fait, je pense que ce que vous êtes en train de nous dire, et on va voir ça dans notre prochaine émission, on va continuer sur cet important sujet. Vous êtes en train de nous dire que Dieu parle par les circonstances, et que Dieu parle par les circonstances pour que nous puissions être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire, justement. Il a quelque chose de très, très important à nous dire. Hein, l'Évangile de Jean nous dit que Dieu est amour, et seul Dieu peut consoler les cœurs, comme seul Dieu peut restaurer les cœurs aussi. Écoutez, merci à tous nos auditeurs, nos auditrices qui nous ont accompagnés pendant ces quelques minutes. Nous, bien sûr, nous désirons de tout notre cœur que si certains parmi vous n'ont jamais vraiment été interpellés par l'Évangile ou ne connaissent pas réellement cet Évangile, que vous puissiez vous approcher du Dieu de l'Évangile, lire sa parole, se tourner vers lui parce que Dieu est vivant et Dieu peut vraiment faire toute la différence dans notre vie. Donc, vous voulez ajouter quelque chose, Pascal, ou?
Non, j'allais simplement dire, même, que l'Église du Dieu, elle est vivante. L'Église de Dieu, elle est vivante sur Terre et que nos différentes communautés, qu'elles soient à Québec ou à Saint-Jérôme, là où ces fois diffusent, sont ouvertes à tous. Et vous êtes bienvenus à venir nous visiter le dimanche matin, à venir entendre la parole de Dieu, à venir nous rencontrer. Ça nous ferait grand plaisir.
Merci beaucoup, Pascal. Effectivement, parce que nous prêchons l'Évangile, la bonne nouvelle, hein, l'Évangile de la grâce de Dieu. Donc, c'est terminé pour cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Parole à propos sur les ondes de ces fois. D'ici là, chers amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, Pasteur Pascal.